C'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et nous accueillons Yves au 3921. Bonsoir Yves.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Mais ça va. Bon. Ça va. Malgré les témoignages que je vais apporter, assez dramatiques dans le sens que, voilà, on a tous un chemin de vie avec des moments de, assez durs à vivre, mais enfin, il faut continuer à vivre. Enfin, l'essentiel, c'est de vivre. La vie est plus forte que tout, quoi. Voilà.
Complètement. Alors, vous nous appelez d'où, Yves ?
Je vous appelle de Toulouse.
De Toulouse, d'accord.
Ouais.
Alors, racontez-moi.
Ben, écoutez, moi, j'ai vécu un parcours, comme je l'ai dit à votre assistante précédemment, enfin, pour préparer l'émission un petit peu, parce qu'elle m'a interrogé. J'ai vécu pas mal de drames depuis une quinzaine d'années, enfin, des choses assez lourdes à porter, quoi. Avec la disparition de parents, de mes frères qui s'est suicidé. J'ai vécu, habitant Toulouse, puisque j'habitais à proximité de l'usine AZF en 2001, l'explosion.
Oui.
On a fêté récemment le 21 septembre dernier, là, 19 ans. Enfin bon, moi, ce genre de commémoration, je ne le fête pas parce que c'est trop douloureux pour moi encore. Enfin, je pense aux gens qui sont morts, quoi. Puis bon, l'aspect psychologique, en fait, tous les gens qui ont été blessés aussi dans leur chair et dans leur trauma, en fait, dans leur mental. Ensuite, j'ai perdu un enfant, un de mes fils. Enfin, je pense que c'est la pire des choses quand on est parent, autant père que mère, enfin, beaucoup plus en tant que mère que père, mais même un père, enfin, vous savez... Enfin, vous avez vécu ça vous aussi, donc oui. Vous connaissez. Mmh. Ça a été enfin, une épreuve. Enfin, c'est une épreuve que la vie... je ne m'attendais pas à vivre ça. Enfin, bon, mais c'est vrai que cette série de tragédies, si vous voulez, m'ont conforté. Ça m'a permis de me rendre compte que le corps humain, enfin, chaque individu, a des réserves... on a tous un potentiel extraordinaire, c'est-à-dire que quand on se pose vraiment les questions essentielles sur la vie, malgré le fait que certains êtres ont disparu, sont plus là, qu'on arrive à s'auto-centrer, c'est-à-dire faire un travail sur soi-même, sans tomber dans l'addiction, sans tomber dans les médicaments, dans l'alcool, parce que bon... c'est sûr qu'il faut être fort. Hein. Faut être fort. Je pense que c'est un combat. C'est quelque chose que faut s'accrocher. Et moi, enfin, c'est vrai que depuis 2014, en fait, depuis la mort de mon fils, depuis, enfin, j'ai essayé de me rapprocher de la nature, de faire du sport, de marcher, d'avoir des contacts avec les arbres. Comme je disais, moi, les arbres, la nature, c'est quelque chose, fait, je ne sais pas, c'est pour moi, c'est essentiel. C'est vrai qu'on a perdu, moi, je pense, le sens de l'écoute, déjà l'écoute entre individus,
oui.
Et puis le sens écouter la nature, c'est-à-dire écouter le souffle même du vent, écouter tout ça, les oiseaux, etc. Enfin, tout ça est très important. C'est-à-dire, il faut revenir à des valeurs fondamentales qui nous permettent de pouvoir souffler, de pouvoir vivre en se coupant un petit peu du monde de temps en temps, ça fait pas de mal, enfin, d'éviter d'allumer la télévision, même le téléphone, c'est-à-dire, moi je constate malheureusement, enfin, ça touche pas que les jeunes, mais il y a énormément de gens qui sont addicts, qui sont accrochés à leur téléphone toute la journée, du matin au soir. Et je pense que ça nuit aux échanges humains, c'est-à-dire aux discussions, aux dialogues. Les gens ne se parlent plus, quoi. Déjà, le fait, c'est vrai, de porter un masque, bon, c'est sûr que c'est une épidémie. Ce qu'on vit depuis le mois de mars, c'est terrible, il faut reconnaître. Mais il faut savoir qu'il y a eu d'autres pandémies au siècle dernier, il y a eu Donc c'est une épreuve à passer, c'est comme tout, c'est-à-dire que on doit faire. Je pense que il faut toujours garder un côté optimiste, c'est-à-dire se dire que c'est une épreuve, et comme toutes les épreuves, un peu comme dans le sport, c'est pareil. On a on doit se fixer des objectifs et on doit passer outre, etc. Il faut faire des concessions, il y a des choses.
Voilà. Mais tout de même, ces épreuves de vie dont vous parlez, Yves, et notamment lorsque vous évoquez la perte d'un enfant, c'est un autre challenge, me semble-t-il. C'est le sport, bien évidemment, on se fixe des objectifs, mais on sait que dans une épreuve telle que celle-ci, et d'ailleurs j'aimerais que vous m'en parliez, comment est-ce que vous avez remonté la pente, qu'est-ce que vous vous êtes raconté à ce moment-là de la vie, quel sens vous avez donné aux choses à ce moment-là, dans quelles circonstances en fait ça s'est passé?
Ben, ça s'est passé, mon fils était diagnostiqué schizophrène, enfin il était conscient de sa maladie, il savait que sa maladie, même en prenant un traitement, de toute façon, il était conscient de sa maladie. Je pense qu'il a fait une surdose de médicaments, et puis c'est un suicide. Moi, ce qui m'a sauvé, si vous voulez, Olivier, c'est que j'ai trois autres enfants. J'ai eu quatre enfants de la même maman, donc avec une séparation, un divorce, évidemment, ça. Mais moi, ce qui m'a sauvé avant tout, c'est le fait d'avoir trois autres enfants. Si j'avais eu qu'un enfant, moi je me mets à la place de parents qui n'ont qu'un enfant et cet enfant disparaît, enfin se suicide ou même meurt d'un accident ou quoi. Je suis persuadé que autant de la part d'un père que d'une mère, enfin je pense qu'il y a des séquelles irréversibles. Enfin il y a des choses, c'est comme si on nous arrache quelque chose. Je dirais que moi j'ai remonté la pente difficilement.
Oui.
Difficilement. Je suis tombé dans une dépression assez forte. Enfin, j'étais obligé de prendre des médicaments pendant quelques temps, des antidépresseurs. Mais j'ai pas voulu continuer le traitement parce que je me rendais compte que de toute façon les médicaments c'est fait pour
abrutir un
peu. Pour amortir le choc, etc. Ouais, mais ouais. Ensuite, autour de moi, c'est vrai que les gens me demandaient comment j'ai réussi à faire le deuil. Parce que faire le deuil, le terme, on ne fait jamais le deuil. Enfin, c'est-à-dire, c'est comme quand on est une personne qui a divorcé, alors tu as refaire ta vie. Mais bon, on ne fait jamais sa vie, on n'a qu'une vie.
On la continue.
On continue sa vie. Un chemin de vie, c'est-à-dire le chemin, il faut savoir que de la naissance, moi je suis athée, je n'ai pas de religion, mais je pense qu'on a tous des moments bien précis dans la vie. Enfin, je pense que tout est écrit, tout est tracé dès les débuts, c'est-à-dire dès la naissance. Voilà. Je vais bifurquer en vous donnant, c'est pas une anecdote, c'est une chose, c'est-à-dire que moi je suis issu d'une famille de cinq enfants. Je suis l'aîné,
oui.
je suis né le 6 mai 1962. Voilà. Et ma maman est décédée le 6 mai 2005. Voilà. Moi, je suis né à 6h32, puisque j'ai récupéré un acte de naissance à la mairie de Narbonne. Et ma maman est décédée le 6 mai 2005 à 6h32 du matin. Alors, moi, je ne suis pas... Je crois pas. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Mais je me rends compte qu'il y a quelque chose, il y a une force. Il y a des forces invisibles, je pense, qui nous entourent, qui nous gouvernent d'une certaine façon, qui gouvernent chaque être, chaque individu qui naît. Et on a tous des épreuves à passer. Et je pense que ce que j'ai vécu, depuis la mort de mon fils, c'est vrai que je sens une protection quand même. Enfin, j'avais la protection depuis le décès de ma mère, mais là, je la ressens beaucoup plus. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé.
Vous lui parlez Vous lui parlez parfois?
Oui. Mmh. Oui. Je lui parle et puis je sais qu'elle me conseille. Enfin, j'ai pas une voix à moi qui me parle, parce que Mais je sens qu'il y a des choses, enfin, notamment il y a des êtres, enfin, il y a des gens avec qui je peux pas, j'ai un ressenti, je ressens enfin des fortes émotions qui sont autour de moi, et je sais que ma mère, là où elle est, enfin, je pense qu'il y a des choses qu'elle me transmet indirectement, mais je les ressens fortement, et je sais quand quelqu'un autour de moi n'est pas bien, est en situation de dépression, a des problèmes dans sa vie, de couple ou quoi, enfin des amis, des copains, etc. J'arrive à ressentir tout ça. Et c'est... Et après, moi, depuis cette épreuve de 2014, si vous voulez, j'ai tendance, c'est vrai, je vais vers les gens de façon naturelle. Et c'est rare qu'on me rejette. C'est rare qu'on me rejette. C'est-à-dire, moi, je suis dans une forme de démarche d'amour envers les gens, parce que il faut, c'est-à-dire pour aimer les autres, enfin, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est-à-dire s'aimer soi-même, ça ne veut pas dire être faire de l'autocentrisme, c'est-à-dire de dire moi je veux, etc. C'est-à-dire au contraire, il faut aller vers les autres, il faut vivre, il faut essayer de partager le maximum de belles choses avec des gens qui en ont besoin, tendre la main aux gens qui en ont besoin aussi, savoir tendre la main, mais sans forcément recevoir, c'est-à-dire qu'il faut le faire de façon très naturelle. Quoi.
Vous avez 58 ans aujourd'hui, hein, si mes comptes sont bons.
C'est ça.
Et il est vrai que l'impression que j'ai, puisque nous sommes de la même génération, à quelques années près, j'ai l'impression tout de même que... À cet âge, on arrive plus à assimiler toutes les valeurs dont vous parlez ce soir. Mieux se connaître, mieux donner un sens à sa vie, le sens du partage comme richesse. Hein, le partage, je parle ici d'une richesse qu'est le partage et d'être plus riche quand on écoute l'autre, quand on arrive à l'entendre vraiment et à comprendre et à remettre ensuite... nos filtres à nous, tout ce qu'on a pu glaner dans ce qu'il nous a dit et cet échange-là, aujourd'hui il me paraît beaucoup plus lumineux qu'il y a 20 ans ou 30 ans où j'étais plus jeune et où j'avais on avait sans doute, je ne sais pas, vous me direz, mais plus de difficultés à percevoir toute cette richesse qui était là, finalement, devant nous, mais que nous ne voyons pas si clairement, en fait. On va marquer une légère pause, si vous voulez bien, et puis on se retrouve tout de suite. D'accord ?
D'accord.
À tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est 22h47. Vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous savez comment nous joindre, chers amis. 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Voilà, nous sommes là pour vous écouter. Nous écoutons Yves ce soir qui évoque sa vie, les épreuves de sa vie et le sens que l'on peut donner à un moment à sa vie, que l'on sait être plus on vieillit, Yves, plus on les vit, ces épreuves. J'ai l'impression qu'une vie sans épreuves, ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez pensé ça à un moment.
Oui. Mais je repensais parce qu'en écoutant les publicités, là, c'est marrant parce que enfin, j'ai oublié de vous dire qu'en 2006, enfin, bon, j'allais donner du sang. Chaque année, je donnais 5 fois par an du sang. Voilà. Parce qu'en pensant, bon, parce que pour les accidents, etc., c'est vrai que les réserves de sang, c'est très important. Et on m'a diagnostiqué, quelques temps après, enfin, j'ai eu une fatigue générale, on m'a diagnostiqué un début de leucémie. Voilà. Et si j'avais pas eu la force d'aller donner du sang, je pense que je serais peut-être pas là pour vous parler actuellement. Donc, c'est pas pour rien. Je dirais que, moi, je dirais que ce jour-là, quand j'y ai été, jamais j'aurais pensé que 2 jours plus tard, mon médecin m'aurait dit, avec les résultats qu'il avait reçus du laboratoire, que j'avais une aplasie, c'est-à-dire un début de leucémie, quoi. Donc, je sais pas comment dire, mais il y a des choses qui arrivent comme ça dans la vie. Des fois, on s'attend pas, mais la vie est faite tellement de surprises. Et c'est vrai, comme vous le disiez, avec les années, on arrive à acquérir une sagesse, enfin une forme de sagesse d'esprit, de recul, de réflexion. Moi, ce que je reproche un petit peu, après, je n'englobe pas toute la jeunesse, etc., parce qu'il ne faut pas dire, parce qu'il y a des jeunes quand même qui réfléchissent, qui ont une conscience, etc., chacun a une conscience, mais on vit trop à l'heure actuelle, c'est-à-dire que dans l'instantané, c'est-à-dire dans les choses trop faciles au niveau communication. C'est vrai qu'on vit à l'ère numérique.
Oui, mais c'est ce que je vous disais, Yves. Vous évoquez une période qui est la nôtre aujourd'hui et celle de nos enfants. Mais nous, vous comme moi et comme beaucoup qui nous écoutent ce soir, nous sommes nés sans le numérique. Nos enfants, aujourd'hui, qui ont 15 ans, 16 ans, eux sont nés en plein dans ça. Et puis ceux de 20 ans, 25 ans aujourd'hui avaient 10 ans, 12 ans quand c'est arrivé. Et finalement, on baignait aussi là-dedans. Donc on a toute une génération qui s'est calquée sur le rythme du numérique. Car tout va très vite sur le numérique. Tout est devenu tellement superficiel, aussi sophistiqué. On met des filtres pour se rendre plus beau. On peut passer pour plus intelligent. Il y a tout un tas de choses qui faussent les rapports humains. Et c'est une véritable catastrophe, en plus, je vous le dis, parce que nos mômes sont complètement branchés sur ce système de communication qui est parsemé de pièges et de possibilités de tromper. Nous, je dirais que nous sommes d'une génération où il n'y avait pas ça. Donc, tromper l'autre, c'était beaucoup plus compliqué. Et on était plus dans un rapport direct. Et je pense que les épreuves que vous avez affrontées, dans les épreuves que vous avez affrontées, ce que vous avez reçu à cette période où il n'y avait pas le numérique et la manière dont vous vous êtes construit a sûrement beaucoup joué dans le fait que vous vous soyez sorti de l'ornière et que vous ayez réussi à vous reconstruire et à ce que j'entends, tirer un enseignement de ces épreuves qui vous ont rendu plus fort aujourd'hui.
Oui, c'est bien résumé, oui, tout à fait, je reconnais. C'est vrai que, actuellement, il y a beaucoup de... la plupart des jeunes, vous disiez 15 ans, 16 ans, 20 ans, 25 ans, tous ceux qui sont nés dans les années même avant 2000, quoi, ils vivent énormément dans le paraître, c'est-à-dire on vit dans c'est une société de spectacle, de paraître, c'est-à-dire à travers même les réseaux sociaux, je ne citerai pas les noms, mais je dirais, mais c'est-à-dire moi je pense qu'il faut revenir aux vraies valeurs, les valeurs essentielles de vivre dans le être, c'est-à-dire être, vivre en ayant le minimum. Ensuite, je ne suis pas contre le matériel en tant que matériel, mais il y a des choses dont on peut se passer, je dirais que on l'a créé, on l'a construit quand même une génération, je pense en France, pas que la France, mais nos sociétés occidentales qui se disent occidentales.
C'est mondial,
mais sauf que non, certains pays d'Afrique, vous allez en Algérie, au Maroc, etc., ils sont complètement différents. Hein. Ils ont notre mentalité quand même, au niveau des médias.
Oui, mais il y a un accès à la liberté beaucoup plus restreint dans ces pays-là, vous savez.
Oui. L'accès plus restreint, c'est sûr, mais ils ont moins de tentations. C'est-à-dire que nous, il y a une forme de tentation.
Mais il y a une orgie consumériste, déjà, chez nous.
C'est ça. Hein, c'est ça.
On tend la main, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour cueillir les choses. Et à contrario, je trouve quand même que cette génération dont je parle, nos enfants qui baignent dans le numérique, à l'inverse des nôtres, sont en train... Dans ces générations naissent de grandes idées pour sauver le monde, une quête d'acceptation de l'autre. Toutes ces générations luttent contre toute forme de racisme. Ils luttent contre l'homophobie, contre le racisme en tout genre. Donc, je trouve qu'il y a de très belles choses aussi qui ont été véhiculées par le numérique. Le problème, moi, voilà, je vois ma fille aujourd'hui, elle appelle des amis à elle qu'elle n'a jamais vus. Mes amis.
Ah oui, oui.
Je lui dis, mais non, ce ne sont pas tes amis. Et ils sont tous pareils à cet âge-là. Mes amis, en fait, ils peuvent faire connaissance sur Internet avec quelqu'un qui peut-être est tout à fait une autre personne ou une personne plus vieille, plus jeune, plus, ou alors quelqu'un qui se fait passer pour plus intelligent qu'il n'est. Et c'est ça qui est dramatique, c'est d'accorder autant d'importance à ce que le numérique véhicule, hein, finalement, ces filtres dont je vous parlais. C'est aujourd'hui, c'est Kim Kardashian, voilà, qui est la référence pour les gamines de 15 ans. Je trouve ça catastrophique. Catastrophique.
Oui, oui. Non, mais c'est aux parents aussi, c'est aux parents
à mettre,
c'est-à-dire que moi, enfin, puisqu'on est de la même génération, des années 60, quand on demandait quelque chose, moi je suis issu, on était 5 enfants dans la famille, et souvent, autant mon père que ma mère, le non était là. C'est-à-dire on nous disait non. Tandis que maintenant, il y a énormément d'enfants qui exigent, qui veulent, et ils ne se rendent pas compte qu'en arrivant, quand ils basculent dans la vie active vers 23, 24 ans, qui commencent à travailler dans la société, enfin, qu'ils ont un travail, et qui vont dans une banque, que le banquier leur dit non, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, sauf que on les a toujours habitués au oui, sauf qu'à un moment donné, il faut dire non. Et moi, je sais qu'avec mes enfants, je sais dire non. Et leur mère dit non aussi, parce que c'est comme ça, c'est une question s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'effort de fait de la part de l'enfant, je pense que, et c'est pareil pour l'adulte, hein, parce que l'adulte qui ne fait pas d'effort, au moment donné, je dirais que le non, il est là aussi, c'est pas, il faut, à un moment donné, il faut savoir, on ne peut pas tout avoir comme ça, parce qu'on fait des générations.
Vous avez raison, le numérique a amené aussi l'abondance, en fait, tout de suite.
C'est ça.
Et dans la relation humaine, le numérique a amené tout de suite le contact, un contact avec quelqu'un, finalement, que dès le début, on fantasme. Et si on le croisait dans la vraie vie, dans la réalité, oui. En face à face, oui. Les yeux dans les yeux, oui. Il se passerait tellement d'autres choses, et peut-être encore plus belles, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça me semble faussé. Mais dangereux quelque part. Et en même temps, comme je vous le dis, il y a dans cette génération, aujourd'hui cette génération véhicule quand même des idées de tolérance beaucoup plus développées que nos générations. Il y a quand même un souffle nouveau dans cette génération qui a pris conscience de l'état du monde. Et ça, c'est plutôt rassurant. Je trouve que ça fait une sorte de contrebalance et on n'a pas encore assez de recul pour vraiment voir comment tout ça va se passer. On va marquer encore une pause avant de conclure, mon cher Yves. Vous restez avec moi et on se retrouve après l'info sur Europe 1, d'accord ? À tout de suite.
D'accord.
23h passées de 4 minutes, vous êtes sur votre libre antenne et c'est jusqu'à 1h du matin que nous voyageons ensemble, chers amis. Vous pouvez continuer à nous appeler au 39-21, 50 centimes d'euros la minute et bien évidemment, nous aurons peut-être le plaisir d'échanger ensemble tout à l'heure. Pour l'instant, nous sommes avec Yves qui nous raconte sa vie, les épreuves de sa vie et le bénéfice qu'il a tiré des combats qu'il a mené face à ces épreuves. Yves, aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez apaisé après toutes ces épreuves ?
Oui, apaisé, oui. Tout à fait, je suis en paix avec moi-même. Enfin, j'ai retrouvé une harmonie, un équilibre tout à fait normal. Enfin, je me sens bien. Enfin, autour de moi, enfin, une espèce d'osmose. Enfin, tout se passe, ça fait... Tout ce que j'entreprends, de toute façon, se passe bien. Bon, même les relations que j'ai. Franchement, je reconnais que si je n'avais pas fait ce travail sur moi-même, si j'étais passé par la case médicaments ou alcool ou autre chose, quoi, ou les drogues, j'en serais pas là, quoi. Enfin, je pense que je serais au fond du trou, quoi.
Et lorsque vous évoquez les choses simples de la vie tout à l'heure, vous évoquez... la nature, le vent, toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez cette impression qu'aujourd'hui, ça donne un sens, en tout cas, ça donne une valeur supplémentaire à votre existence, le fait d'être attentif à tout ça ? Moi, je ressens totalement ça aujourd'hui, alors que pendant des années, je ne l'ai pas ressenti.
Ah non, mais effectivement, en fait, déjà le fait de... Enfin, moi j'en parlais tout à l'heure à votre assistante. Moi, les 2 mois de confinement, C'est vrai que c'était une épreuve pour beaucoup de gens, d'auditeurs, enfin, je pense autant ici qu'ailleurs. Mais moi, je pense que la nature, il y a eu la nature s'est remise à respirer, enfin, la terre, enfin, parce qu'au niveau de la pollution, déjà moins d'avions, moins de trafic, etc., moins de bruit, etc. Moi, j'ai revu de plein d'oiseaux que je voyais plus, des hérissons, notamment les hérissons. Voilà, il y a plein d'oiseaux, enfin plein d'animaux, de petits mammifères qu'on voit plus. Et c'est vrai que moi, à travers les balades que j'ai faites en forêt, enfin, près de chez moi, il y a un bois, et j'ai même réappris à respirer, parce que la respiration, faire un travail de respiration sur soi, tout en marchant, ça aussi, je dirais que ça permet de mieux se sentir dans sa tête, c'est-à-dire de mieux respirer, ça permet d'abord le cœur se fluidifie beaucoup mieux, on se sent bien, c'est-à-dire qu'on a une forme d'énergie voilà, naturelle, tout simplement, en écoutant, en étant en osmose avec les bruits qui nous entourent et qui font partie et qui sont là bien avant nous et qui sont là après nous. Enfin, il faut espérer pour les générations, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que le mouvement de jeunes qui se battent pour la planète, pour la défense des océans, des tigres du Bengale, etc. Enfin,
des baleines. Tout un tas de choses, ouais.
Oui, oui. Donc, c'est très important. C'est vrai que l'aspect, bon, après numérique sur Internet, là-dessus, ça, je reconnais qu'il y a quand même, c'est une force quand même incroyable, une puissance de feu. Enfin, ça, excusez-moi l'expression parce que ça fait un peu guerrier, mais au contraire, c'est un poids quand même qui peut apporter pas mal de choses, de faire bouger quand même les politiques des États
complètement
à travers le monde.
En tout cas, quand ça va dans le bon sens, vous avez raison de parler de feu et de force surtout, parce que un message peut être véhiculé en quelques secondes, et ça sur toute la planète. Et on voit des initiatives ici et là qui prennent une envergure incroyable, et de belles initiatives. Donc je pense que l'un dans l'autre, en fait, je pense, et c'est le monde d'aujourd'hui, il va bien falloir que nous l'acceptions. Et je pense à un équilibre, moi, petit à petit. Un peu comme les forces du mal et celles du bien qui s'affrontent. Finalement, on aura un monde où le numérique jouera et un rôle positif et un rôle négatif, je pense.
Non, mais il faut rester dans l'optique, je pense, du bien avant tout, quoi. Le mal, enfin, je dirais que le mal n'est pas le propre de l'homme. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, les mammifères, comment le comportement des animaux, les animaux attaquent pour se nourrir, tout simplement. Ils n'attaquent pas par plaisir. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de fusil, d'avion, etc. Enfin, ils attaquent pour nourrir leur meute, par exemple, les tigres ou d'autres. D'autres mammifères, d'autres espèces, ou même les aigles, etc., enfin, tous les oiseaux. Donc, c'est vrai que, enfin, moi, je suis plutôt dans le bien, c'est-à-dire le bien, ça apporte, enfin, le bonheur aux autres, avant tout, quoi. Et le côté mal, je dirais que il faut éviter, c'est-à-dire que le mal, au contraire, ça nuit, et puis ça fait énormément de mal aux gens qui le font. Parce qu'ils ne se rendent pas compte, mais quand on véhicule du mal autour de soi, ben on ne récolte que du mal. C'est-à-dire que les gens, ils s'étonnent d'avoir fait du mal. Et après, ils se rendent compte qu'effectivement, ce qu'ils ont semé, ils le récoltent un jour ou l'autre. Je dirais que ça, c'est pour ça qu'il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à l'essentiel. De partager à travers le partage, de donner de l'amour dans le bon sens du terme, c'est-à-dire autour de soi, d'apporter de l'aide, des aides. Enfin, moi, pendant le confinement, j'ai aidé une voisine voilà, qui était âgée, etc., à faire ses courses, etc., elle ne pouvait pas sortir. Mais c'est ce genre d'initiative, il faut que les gens prennent conscience et qu'il faut qu'ils arrêtent de sortir de leur bulle égoïste, qu'ils soient moins individualistes, qu'ils pensent trop à eux et qui pensent un petit peu aux autres. Si tout le monde réagissait comme ça, je pense que la planète, enfin, le monde tournerait mieux, je pense. Voilà.
Oui, vous avez raison, vous avez raison. Après,
ah oui, mais j'aimerais
bien que toutes les personnes qui sèment le mal le récoltent ensuite, mais je ne suis pas sûr que malheureusement toute personne mal intentionnée. Vous pensez ça, vous ?
Non, moi je pense que la roue tourne, vous savez, elle tourne. Je pense qu'il y a toujours un retour de bâton pour chacun. Mm-hmm. Et même au-delà, c'est-à-dire des hautes sphères, enfin les gens les dirigeants, enfin les politiques, etc. Peu importe. Enfin, moi je jette la pierre à personne parce que de toute façon, ces gens-là, il y a une forme de, je parle pas de jugement dernier, mais il y a de toute façon, il y a toujours l'envers du décor, il y a toujours quelque chose qui se passe après, c'est-à-dire les gens qui font du mal, voilà, de façon inhumaine, un jour ou l'autre, ils ne s'attendent pas et ça retombe dessus, c'est-à-dire que c'est comme ça, sans vouloir. Pourtant, moi, je suis pas j'ai pas d'ennemis, je suis pas dans la vengeance, parce que j'ai horreur, je peux pas, j'irais même au-delà, j'ai toujours été contre la peine de mort, je suis contre la mort de quelqu'un, même le pire, je ne peux pas, c'est-à-dire que un être vivant doit continuer à vivre, même s'il a fait du mal, il doit vivre dans le mal, avec son mal à lui, mais en étant isolé, en étant mis dans une enfermée, etc., mais qui sont, mais voilà, parce que c'est du grand service de lui ôter la vie, je pense. Enfin, moi j'ai toujours défendu je suis contre la peine de mort, mais bien avant 81, je veux dire, même dans les années 80.
En tout cas, en vous écoutant, on a beaucoup, moi j'ai beaucoup d'optimisme de voir ce pont entre ces jeunes générations et nos générations se renforcer, se consolider et ces générations aller finalement tous et toutes vers le même objectif, c'est d'améliorer un peu les choses et de faire attention de plus en plus aux autres autour de nous et à ce monde qu'on a largement abîmé. Merci en tout cas, Yves, pour votre appel au 3921 ce
soir.
Merci
à vous. Bonne soirée, Olivier.
Bonne soirée à vous et bonne continuation. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.